Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, c'est le ventre. Éthique, photographie, réseau, danse, mouvement. Tout ça est au programme de notre série qui se poursuit aujourd'hui par un instantané des connaissances liées à notre intestin.
Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Non, c'est pas mes soeurs, Marcel. Fais doucement.
Laisse-toi aller, mais.
Marcel, sois pas mes
soeurs. Ne vois pas honte, Puyot.
Oh, c'est horrible. Ah! Tu sais, quand je. J'étais petit, ma mère, elle me met toujours des punitions terribles. Et là, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois depuis que je suis adulte, tu comprends.
Ne la prends pas au tragique, ouvre les jambes. Pousse.
Oh non.
Ça te soulage. Ça décongestionne. Pousse. Aide. Allez.
Oh là. Oh.
L'émission du jour est titrée « Ce que l'on a dans le ventre » et dans quelques minutes, nous serons le plus scientifique et précis possible à ce sujet, mais profitons un instant du sens figuré qui, depuis plusieurs siècles, prête à cette expression le sens du courage, de l'ambition, du projet, de l'audace. Il y a pile 2 ans, la gynécologue obstétricienne Gada Hatem posait une première pierre fictive de la maison pour les femmes destinée à accueillir les victimes de l'excision et des violences conjugales. « J'avais pas grand-chose dans les poches », raconte-t-elle au journal JDD, alors j'ai décidé de poser la première pierre au bluff. Elle marque les esprits, récolte des fonds et tout cela va exister en juin prochain à Saint-Denis. Alors en lisant ces mots, je me suis dit que cette femme en avait dans le ventre, comme tant d'autres qu'elle et qui font avancer les choses. Une journée pour le dire, c'est insuffisant évidemment, mais c'est une occasion quand même. Il est 14h passées de 1 minute, bienvenue à tous et à toutes dans les nouvelles vagues. Ces nouvelles vagues, nous pensons qu'elles sont le fruit de découvertes marquantes. Nous avons demandé cette semaine à la cinéaste Laetitia Merli de sonder ses souvenirs à la recherche de ces moments, de cette importance-là. Son travail porte sur le chamanisme contemporain en France et en Mongolie. Et elle est aussi directrice du Festival international Jean Rouch, anciennement bilan du film ethnographique. Et c'est précisément de sa rencontre avec le cinéaste qu'elle nous parle aujourd'hui et de son choc devant le film « Les maîtres fous ». Récit vers 14h50. Deuxième moment de cette semaine consacrée au ventre. Hier, la doctorante Delphine Lance rapportait de ses différents terrains de recherche aux États-Unis et en Ukraine les paroles de femmes porteuses. Aujourd'hui, l'on se demande ce qu'il y a dedans et comment cela fonctionne. En 2012, une opération de greffe transplante l'ensemble de l'appareil digestif d'un corps mort à un corps vivant mais atteint d'une pathologie des muscles du ventre. Pendant cette intervention de plusieurs heures, l'équipe médicale conséquente a donc vu l'abdomen à vide et les organes nouvellement implantés reprendre peu à peu leur couleur et leur activité dès la revascularisation. Des prouesses médicales de cet ordre ouvrent un merveilleux champ de guérison pour un tas de pathologies, tout comme la connaissance progressive des millions de bactéries contenues dans le microbiote de l'intestin ou encore des millions de neurones abrités dans la paroi intestinale ouvre un champ de recherche et d'application dont on ne soupçonne peut-être même pas encore l'étendue. Est-ce dans ces découvertes récentes qu'il faut trouver l'explication du succès de librairie des livres consacrés à l'intestin, ou est-ce que le succès de ces livres vient de ce que la médecine occidentale a trop longtemps délaissé le ventre, contrairement pourquoi pas à sa cousine chinoise. Le ventre au centre aujourd'hui avec vous, Francisca Joly-Gomez. Vous êtes professeure en nutrition à l'Université de Paris 7. Vous êtes aussi gastro-entérologue à l'hôpital Boujon. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Marie.
Et vous êtes l'auteur de L'intestin, notre deuxième cerveau, comprendre son rôle clé et préserver sa santé. C'est paru en début d'année, reparu dans la collection Poche aux éditions Marabout. Alors, est-ce qu'on peut faire une liste exhaustive de ce que l'on a dans le ventre, peut-être la liste des organes par exemple?
Alors, si on se concentre là sur les organes digestifs, en fait ça va commencer de la bouche pour aller jusqu'à l'anus. Donc on va avoir l'œsophage, l'estomac. Puis après l'estomac, on a le duodénum, auquel se rattachent en fait des organes qui sont essentiels comme le foie, et le pancréas. Et puis après, on va continuer tout au long du tube digestif avec l'intestin grêle, qui est moins connu par le grand public. Puis, ça se termine par ce qu'on appelle le gros intestin ou le côlon pour arriver au final à l'anus.
Pourquoi est-ce que l'intestin grêle est moins connu par le grand public? Pourtant, son rôle est aussi très très important.
Alors, son rôle est essentiel puisque c'est finalement au niveau de l'intestin grêle que va se produire toute l'absorption des nutriments. Les nutriments, c'est ce que l'on mange et il va falloir transformer cela en petits éléments. On va commencer la digestion au niveau de l'estomac, mais c'est finalement au niveau de l'intestin grêle que ces petits éléments vont pouvoir passer au travers de la paroi, arriver dans le sang et être transformés en carburant, en calories. Lorsque l'intestin grêle est raccourci, faut savoir que l'intestin grêle mesure entre 4 à 6 mètres hein, chez l'adulte. Lorsque l'intestin grêle est raccourci, donc cette absorption devient insuffisante et on va avoir ce qu'on appelle une malabsorption, c'est-à-dire ce que l'on mange ne suffit pas forcément à couvrir les besoins d'une personne.
Et on peut considérer que ce qui n'a pas encore été absorbé ou diffusé, s'est diffusé parmi dans la paroi de l'intestin grêle, passe dans le deuxième intestin, le gros intestin plus connu.
Exactement. Alors ce que l'on connaît, c'est le gros intestin, le côlon. Alors pourquoi on le connaît? Peut-être parce qu'il nous parle plus, on le sent peut-être plus. Parce que lorsque, en effet, les aliments qui n'ont pas été digérés dans l'intestin grêle arrivent dans le côlon, à ce moment-là, il va y avoir un phénomène de fermentation. Donc les bactéries qui vont composer en fait le côlon vont fermenter en fait tout ce qui n'a pas été digéré et entre autres ça va produire des gaz et ça on le sent quand on parle de flatulence, de gaz, c'est les bactéries du gros intestin, du côlon qui fermentent tous ces aliments non digérés et vont produire en fait cet inconfortable gaz.
Et on va d'ailleurs revenir peut-être un peu plus précisément tout à l'heure sur toutes ces bactéries puisque j'ai cité ce mot qui peut-être ne veut pas dire grand-chose pour nos auditeurs, ou en tout cas certains d'entre eux, qui est le microbiote, et qui est un environnement qu'on va décrire un peu plus précisément. Mais j'évoquais cette incroyable opération qui a lieu en 2012, où tout un système digestif est transplanté d'un corps mort à un corps vivant, mais un corps qui, par exemple, ne pouvait pas manger ce qu'il voulait. C'est le corps d'un jeune homme à l'époque, qui a 27 ans. Comment s'est passée cette opération, et quelle vision il a donnée au corps médical qui était autour du soigné.
Alors comme toutes ces histoires incroyables, on est dans le cadre de maladies orphelines, donc c'est des maladies extrêmement rares. Pour ce jeune homme en question, c'est une maladie qui touche en fait le muscle de l'intestin. Alors c'est vrai qu'on ne pense pas forcément que notre intestin comprend un muscle. En fait, on le sent bien quand l'intestin se contracte, il bouge et en fait on a besoin que l'intestin ait cette motilité, c'est-à-dire que pour que les nutriments descendent tout au long du tube digestif, il faut bien qu'il se contracte. Et il y a des maladies rares. Dans le cadre de ce jeune homme, il s'agit d'une pseudo-obstruction intestinale chronique où en fait, on a une paralysie du muscle de l'intestin. Et donc, il était dans l'impossibilité de s'alimenter. Il était, depuis la toute petite enfance, alimenté par voie artificielle, c'est-à-dire que les aliments étaient apportés par voie intraveineuse. Et parce qu'il présentait des complications graves liées à cette nutrition artificielle, à un moment donné, il a été posé l'indication de tenter une transplantation qu'on a appelée multiviscérale, puisqu'il n'y avait pas que le côlon ou l'intestin grêle qui était touché, mais il y avait bien l'estomac, le duodénum, l'intestin et le foie qui lui-même avait été abîmé par de longues années de nutrition artificielle. Donc c'est vrai qu'on est dans des maladies extrêmement rares. C'est une transplantation rare, il faut bien le dire, qui est réservée à des maladies très très particulières, mais qui pour lui devenait vitale.
Et donc vous avez vidé son ventre et vous l'avez re-rempli. C'est pas une image excessive que de dire cela.
C'est une image qui est extrêmement troublante, qui amène même une forme d'émotion forte, puisque évidemment on tisse des liens très forts avec un patient qui est malade depuis l'enfance. Et à un moment donné, c'est vrai que à l'intérieur, on est obligé de retirer les organes qui restaient, qui ne fonctionnaient pas. Et tout d'un coup, on va amener des organes qui sont un peu gris, puisqu'ils ne sont pas encore relié au reste. Et tout d'un coup, par l'arrivée en fait du sang dans ces organes, on voit ces organes qui deviennent roses. Et la vie recommence en fait. Et c'est la vie intestinale qui, chez lui, a pu reprendre avec une alimentation orale possible, enfin, et l'arrêt de cette nutrition artificielle qui était nécessaire pour le maintenir en vie.
Et comment va-t-il depuis ?
Alors, il va très très bien. Il va très bien. Donc, c'est vraiment un vrai bonheur que de pouvoir même repenser à ce moment très particulier.
Alors, Kaka, bon, je vais vous dire une bonne chose qu'on a tendance à l'oublier, à vouloir, la chasse d'eau rapidement, très vite, on ne veut plus en entendre parler. On crie, on entend des grands cris de dégoût, tout ça, mais pourtant, c'est la vie. Et je vais vous dire que dans les tranchées, en 14-18, quand ils étaient au plus bas, ils se soignaient comment? Ils mangeaient leur caca, les poilus. Et puis, c'est comme ça qu'ils se sauvaient. Et c'est l'avenir aussi de la science. Parce qu'ils se bourraient de bactéries, et les bactéries, il n'y a rien de mieux pour nous. Et vous verrez que dans, je dirais, une trentaine d'années, il y aura dans les restaurants des plats constitués de caca.
Ah oui?
Oui, on dira, je vais prendre un caca pomme de terre, sans que les gens rigolent. Il est délicieux, ce caca.
Voilà, Philippe Catherine qui n'a pas son pareil pour parler du caca. Le caca, c'est la vie, dit-il au micro d'Eva Bester. C'était dans l'émission Remède à la mélancolie en février 2016 sur France Inter. En même temps, il dit des choses essentielles. Notamment, il évoque les tranchées. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire avérée. La science met à jour des possibilités nouvelles, par exemple, de transplantation fécale. De quoi s'agit-il, Francisca Jolie Gomez?
Alors, en fait, dans le gros intestin, le côlon, on a ce qu'on appelle le microbiote. Donc le microbiote, comme son nom l'indique, en fait, micro, c'est petit, et biote, c'est vie. Donc c'est les petits organismes vivants. Et donc on a, en fait, des milliards de bactéries dans notre côlon, dans notre intestin. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça pouvait avoir un rôle thérapeutique. Ça pouvait devenir un traitement. Alors, c'est vrai que on va se dire, tiens, c'est quelque chose de nouveau, finalement, cette transplantation de microbiote. En fait, pas tant que ça, puisque déjà au 5e siècle, en Chine, on utilisait une soupe jaune. Donc, je vous laisse deviner ce que ça peut être. Et en fait, c'était des selles reconstituées. On présageait déjà que ça pouvait avoir un rôle bénéfique. Alors aujourd'hui où on en est, on se rend compte que dans certaines maladies, lorsqu'on a une diminution de la diversité des bactéries intestinales, ça peut entraîner certaines maladies. Donc en fait, on a besoin de ces bactéries pour vivre, mais on a surtout besoin d'avoir une vraie diversité, qu'il y ait des familles différentes. Lorsqu'on est confronté à des maladies où cette diversité est diminuée, on peut se poser la question de si on réimplante du microbiote. Alors aujourd'hui, on en est à un stade où faire une transplantation de microbiote, ça consiste à prendre des selles d'un donneur sain, qui n'a pas de maladie. Ces selles vont être homogénéisées, filtrées, ça va donner une sorte d'émulsion, et on va administrer par lavement, ou lors d'une coloscopie, ou par le haut en mettant une sonde en fait dans l'estomac, et donc ça va se diffuser lentement dans l'intestin, on va apporter finalement des nouvelles bactéries, mais surtout une diversité. Et ça peut guérir certaines maladies. Donc il y a une maladie pour laquelle la transplantation de microbiote est vraiment très intéressante, c'est ce qu'on appelle la colite à Clostridium difficile. Alors c'est un nom un peu barbare, en fait le Clostridium difficile c'est une bactérie qui devient pathogène, c'est-à-dire elle devient méchante finalement pour notre intestin quand elle est dominante. Et donc l'idée, c'est d'apporter énormément de bactéries pour que cette bactérie dominante ne soit plus dominante. Et dans ce cadre de maladie, on a vraiment des guérisons spectaculaires. Donc ça ouvre en fait pour d'autres maladies où on pense qu'il y a un rôle de notre microbiote dans ces maladies-là, des perspectives. Et il y a des perspectives évidemment thérapeutiques, mais il y a aussi des perspectives en termes d'amélioration d'administration, puisqu'on voit apparaître dans certains pays des banques de sel, où on va pouvoir avoir accès à des sels, par exemple, congelés, qu'on pourra utiliser dans des maladies particulières. Et dans un avenir très proche, on aura probablement des gélules avec des sels congelés, voire des souches de bactéries qui pourraient être intéressantes.
Mais ce microbiote, qui est donc la population des bactéries qui est à la fin de cet intestin et qui a pour rôle d'attaquer les nutriments qui arrivent aussi à la fin de leur parcours digestif, est-ce qu'on peut le repeupler ou en tout cas diversifier sa population autrement qu'en absorbant des sels? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, la nourriture est un vecteur de peuplement de bactéries?
Oui, évidemment. On va dire que le transfert de microbiote ou la transplantation fécale, c'est la méthode ultime. C'est apporter finalement une diversité en apportant les bactéries de quelqu'un d'autre. L'idéal étant de repeupler avec son propre écosystème. Et là, le meilleur moyen, c'est par l'alimentation.
Et alors, comment ça? Parce que dans l'alimentation, on trouve des bactéries pour notre intestin.
Alors, dans l'alimentation, en fait, on va donner des nutriments, des aliments qui ne sont pas bien digérés par l'intestin grêle
qui
et arrivant dans le côlon, ça va servir et à la fois d'aliments pour nos bactéries et donc ça va permettre à des bactéries de proliférer. Et par exemple, ça veut dire que les aliments qui entraînent le plus de fermentation, ce sont les fibres. Et c'est pour ça que dans les conseils alimentaires de bon sens qui sont de manger des fibres, il y a une réalité scientifique que le fait de manger diversifié et notamment avec un apport de fibres suffisant fait qu'on va diversifier notre microbiote.
Et ça veut dire que le corps ne l'expulse pas, n'expulse pas ces fibres et qu'elles restent, qu'elles demeurent dans l'intestin et qu'elles viennent à la fois nourrir et composer une nouvelle population de bactéries qui elle-même sera nécessaire à la digestion d'autres futurs nutriments.
Bah finalement, les fibres elles vont être en transit. Il y a un moment donné, ça va être expulsé dans les selles pour les fibres qui ne sont pas solubles. Il y a des fibres solubles, des fibres insolubles, mais pendant leur transit dans l'intestin et en arrivant dans le côlon, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un rôle et un contact avec ces bactéries intestinales. Puis après, soit elles vont être totalement
digérées,
on va dire, soit elles vont être expulsées avec les selles.
Mais au passage, elles nourrissent les bactéries qui ont besoin de l'être.
Exactement.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Je ne suis pas pétomane, mais j'en ai connu beaucoup. Et je suis, peut-être j'ai une des littératures les plus complètes à propos de ce phénomène, qui est beaucoup plus spirituel de celui qu'on croit. L'épée, alors là, ça se manifeste d'une façon bruyante, et, quoique spirituelle, très pleine de tous les résidus de ce qu'il y a de plus viscéral dans l'organisme, c'est-à-dire la digestion. À ce moment-ci, je vais annoncer, parce que très peu de gens le savent, c'est qu'à Palermo, c'est l'unique endroit où il y a un musée d'épée. Parce que à l'époque, c'est au début de la Renaissance, c'est, les gens pétaient beaucoup. Et on avait dû prévoir ça pour les gens qui venaient de se marier, qui avaient des repas vraiment copieux, vous savez, 10 plats, et des choses excessivement succulentes. Alors, pour éviter l'inconvénient que les deux amoureux, aussitôt qu'ils se mettaient dans le lit, commencent à péter réciproquement, alors on avait fait des canules avec des images très belles en argent et en ivoire, avec des images des dauphins, des choses mythologiques, très souvent avec des images de la Sainte Vierge et tout ça, qu'on introduisait dans l'anus et dans lequel était suivi d'une bessie, une espèce de tuyau, maintenant on le ferait en plastique, qui allait dans la chambre voisine. Et alors les gens pouvaient passer toute la nuit à péter, mais les odeurs s'en allaient à côté.
Image et récit incroyable dans la voix de Salvatore Dalí. C'est une archive assez difficile à dater. Mais en tout cas, cela nous fait parler d'épais, des flatulences, de ces gaz dont vous parliez tout à l'heure, Francisca Joly-Gomez. Alors, vous dites que c'est une des raisons, dans ce livre, vous dites que l'on veuille ou pas, finalement, il faut considérer que c'est la preuve du bon fonctionnement du système digestif et de la digestion. Est-ce que le fait que ce soit tour à tour considéré comme inélégant, là, on l'entendait dans la voix de Salvatore Dalí, par exemple, en Italie, ça veut dire que c'est une des raisons pour lesquelles on parle rarement du ventre, de l'intestin, du système digestif, une des raisons pour lesquelles il serait éventuellement considéré comme un organe mal aimé, cet intestin.
C'est probablement une des raisons qui fait qu'en effet on a du mal en tout cas à décrire les symptômes, et on le voit en consultation, c'est quand même compliqué de mettre des mots, surtout quand ça devient même douloureux. Parce qu'on peut avoir finalement en effet des gaz, c'est normal, c'est physiologique. Après, ce qui devient difficile, c'est quand ça entraîne une altération de la qualité de vie. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué en fonction du travail. En effet, d'être par exemple assis toute une journée ou avoir des réunions en permanence, ça peut entraîner des difficultés. Mais c'est difficile de mettre, d'en parler, de mettre des mots.
Et des gens qui ne consultent pas, vous avez l'impression par exemple, c'est sous-diagnostiqué, les problèmes liés à la digestion, au système digestif?
Alors maintenant, le fait qu'il y ait eu justement une libération, une forme de libération de la parole par tous ces ouvrages, par ce que l'on peut lire dans les magazines, fait que probablement, c'est plus facile d'en parler. Mais néanmoins, il y a toujours une sorte de retenue. Dans les termes, on doit aller chercher hein, à l'interrogatoire, de faire préciser les signes, parce que c'est pas toujours évident d'en parler. Et puis il y a qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est anormal, puisque finalement on le sait tous, dès qu'on est petit enfant, les enfants ont des gaz et on regarde pas ça, on dit pas ça. Comme si on ne regarde pas ça de manière négative.
Mais vous diriez qu'on a une connaissance, entre guillemets, de la normale ou du bon fonctionnement de notre système digestif, de la manière dont ça se passe, entre guillemets, dans notre ventre. Vous diriez que, de manière générale, on connaît bien cela?
On connaît de mieux en mieux.
Je parle vraiment du lambda, hein. Pas des scientifiques, pas des médecins, pas des chercheurs.
Alors, pour les scientifiques, on connaît de mieux en mieux, mais néanmoins, il y a encore beaucoup, beaucoup d'interrogations. Mais c'est vrai que finalement, je pense que il y a beaucoup de questionnements et beaucoup de gens se posent la question de est-ce que ce symptôme que j'ai, est-ce que c'est normal ou anormal ? Et parfois, la réponse n'est pas apportée non plus par le médecin. Quand on dit qu'il y a une difficulté à en parler, c'est parce que aussi, on a beaucoup de personnes qui se retrouvent face à un médecin qui a du mal à faire la part des choses, parce que c'est pas si simple, en fait, de faire la part des choses entre ce que l'on considère être comme physiologique, c'est-à-dire normal. En effet, si on mange beaucoup, si on a un repas aussi important que ce que décrivait Dali tout à l'heure, on comprend très bien qu'il y ait une fermentation, des gaz, de manière importante. Mais à partir de quand c'est anormal ?
Comment vous faites en consultation ? Parce que la personne, vous pouvez pas ouvrir son ventre pour savoir si le microbiote, par exemple, est suffisamment varié, hétérogène, si l'intestin se contracte et se relâche suffisamment bien. Comment vous faites ?
Alors on va rechercher des signes qui montrent que c'est douloureux. Par exemple, on peut avoir des gaz, on peut être ballonné sans que ce soit douloureux. D'ailleurs, ces personnes-là, souvent, ne consultent pas, même si maintenant, de plus en plus, on a des personnes qui consultent juste parce qu'elles ont un gros ventre et que ça les gêne pour s'habiller. Et là, nous, on va dire, mais finalement, si c'est pas douloureux, si on retrouve pas d'autres signes, on va chercher d'autres signes qui font penser à des maladies sous-jacentes. Une des grandes craintes, finalement, du médecin, c'est de passer à côté de quelque chose de grave. Et c'est pour ça que, souvent, on raisonne par, au lieu on n'a pas de test précis pour dire là, votre ballonnement il est normal, votre digestion est parfaitement normale. Ben on va plutôt rechercher les choses pour lesquelles on pense que ça peut être très grave. Et donc la grande crainte c'est de passer à côté, par exemple d'un cancer du côlon, d'une maladie grave qui entraîne une malabsorption. Donc le raisonnement, c'est pour ça qu'il est compliqué, en effet. Et donc, on va chercher des signes associés. Est-ce que la personne a perdu du poids ? Est-ce qu'il y a du sang dans les selles ? Est-ce qu'il y a des signes d'inflammation quelque part ?
C'est la douleur qui est donc vraiment le moment où on s'inquiète de quelque chose ?
La douleur est quelque chose d'un élément important. Et puis, les autres signes, comme par exemple une perte de poids ou des difficultés à s'alimenter. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit des personnes qui, du fait de la douleur, vont chercher dans l'alimentation ce qui peut améliorer ou pas les choses et se retrouvent face à une grande difficulté qui est « j'ai tellement changé mon alimentation que je ne sais plus quoi faire ».
Et donc, soit consulter voilà. avant de changer radicalement son alimentation.
Oui.
Alors, on n'a pas cité son nom jusqu'à maintenant, mais quand on parle des succès en librairie, il y a évidemment le livre de Julia Enders, qui était à l'époque une étudiante de 24 ans en médecine, qui est aujourd'hui docteur et qui écrit ce livre, Le charme discret de l'intestin, publié aux éditions Actes Sud. Tout à l'heure, vous rappeliez l'idée selon laquelle, au 5e siècle, en Chine, on suggérait déjà l'absorption, par exemple, de matières fécales diluées dans de l'eau. Est-ce qu'on peut considérer que sur ce terrain-là, il y a un retard de la médecine occidentale qui expliquerait le succès de livres comme le vôtre ou celui de Julia Enders venant peut-être combler ce retard-là. Est-ce qu'on peut parler d'un retard ?
Je pense que en fait il y a eu plusieurs événements. C'est-à-dire que en médecine occidentale, au cours des 50 dernières années, on a fait d'énormes progrès, notamment dans les diagnostics ou les traitements de certains cancers, de certaines maladies que l'on juge comme des maladies graves, potentiellement mortelles. Et on s'est beaucoup axé sur comment on peut améliorer le pronostic de ces maladies-là. Pour ce qui est de l'intestin, on a fait des progrès dans la connaissance scientifique de ce monde des bactéries, notamment qui composent l'intestin qu'on appelle le microbiote, des interactions entre ce microbiote et le reste des organes. Et donc ça, c'était quelque chose de nouveau, c'est-à-dire, mais scientifiquement très fort, parce qu'on a des outils en recherche fondamentale qui ont fait énormément progresser les connaissances sur ce monde des bactéries. Concernant le succès de ces livres, c'est assez troublant. Parce que je crois pas que ce ne soit lié qu'à l'amélioration des connaissances, parce que
il y a plein de domaines où il y a un boom des connaissances scientifiques et très très précises de la recherche fondamentale et autres, et où il n'y a pas des ventes en librairie qui relèvent du million, hein, si on est à l'échelle de l'Europe. Donc qu'est-ce que ça dit aussi de notre propre rapport au corps, de notre rapport à cette région centrale du corps?
Je crois que ça dit en tout cas qu'il y a une attente. Il y a une attente des personnes, un vrai questionnement, avec une l'impression que, en effet, ce ventre peut avoir un rôle en termes de santé, mais aussi de qualité de vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin avec le ventre entre je veux être en bonne santé, mais je veux aussi être bien tout court. Et beaucoup de personnes font un espèce de lien entre si mon ventre va bien, mon humeur va être bonne, on n'est pas que dans la santé. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup aussi attiré, c'est que tout d'un coup...
Une intuition populaire qui sentirait que cette région du ventre est une région centrale pour la santé, pour le mieux-être. Parce que par exemple, on ne connaît pas d'ouvrage consacré aux pieds ou aux poignets ou aux oreilles qui ait connu un tel succès.
Oui, je crois que c'est vraiment... Enfin, le terme viscéral, il vient naturellement. C'est quelque chose de viscéral en nous. On sent que, au centre de notre corps, donc on a le cœur qui est essentiel pour faire travailler l'ensemble. On ne peut pas vivre sans cœur. Le cerveau, on en a moins conscience.
Succès de librairie aussi, hein, cœur et cerveau, succès de librairie à bien des égards.
Voilà, et puis tout d'un coup, ce ventre que, en fait, on peut le ressentir. On le ressent fréquemment. Quand ça va, quand ça va pas, quand on est stressé, quand on digère difficilement après un gros repas, on sent qu'on a... Donc il y a aussi, physiquement, on le sent travailler. Et puis il y a un rôle qui est que aujourd'hui on se dit, avec l'alimentation, je peux devenir acteur. Le cœur, je peux faire ce que je veux. Oui, je peux faire de l'activité physique pour améliorer mon cœur.
Arrêter de fumer.
Arrêter de fumer. Mais là, tout d'un coup, on se dit... Et si, en mangeant différemment, ou tout simplement en comprenant, il y a une vraie attente dans la compréhension, le besoin de comprendre, là, à ce moment-là, je peux devenir vraiment acteur et pourquoi pas améliorer ma santé, mais aussi le bien-être.
Moi, ça me fait mal au ventre quand j'ai mal à l'âme. Mon âme, elle est dans mon ventre. J'ai souvent mal à l'âme, donc j'ai souvent mal au ventre. Mais en même temps, prégnance physiologique, plus que physique, même physiologique, est tellement importante pour moi. Tellement importante de ne pas la nier. Tellement importante de s'y plier, de l'accepter. Son corps, quoi. Sa mort, quoi. Parce que le ventre, c'est la naissance. Mais c'est la mort. Moi, j'aime beaucoup le ventre parce qu'il va périr. J'aime beaucoup le ventre parce qu'il est oublié par les gens qui pensent que les hommes ne périssent pas et qu'ils ont une éternité. J'aime beaucoup le ventre parce qu'il nous ramène à notre condition mammifère. Impérieusement, il nous ramène. Quand on a la chiasse, tout le monde est au même niveau. Et c'est impérieux, la chiasse. Personne ne peut... Qui peut baiser en ayant la chiasse? Le ventre est plus puissant que le sexe, et pourtant Dieu sait si le sexe est puissant. Non, c'est un instrument puissant. En plus, le ventre pense. Vous avez vu les scientifiques viennent de découvrir que le ventre pense, il y a des neurones dans le ventre, des neurones indépendants du cerveau. Je ne suis pas très savant, moi, je ne suis pas très scientifique, mais ça m'a frappé.
T'as frappé Jean-Michel Rabeu, qui est un metteur en scène, qui avait publié en 2002 un texte qui s'appelle « Le ventre » aux solitaires intempestifs, ici au micro d'Aurélie Charron en janvier 2014 dans l'émission Atelier intérieur. On entend dans la voix, d'ailleurs assez susurrée, parce que le soir de Jean-Michel Rabeu à propos du ventre, on entend toute la puissance, on a presque l'impression que ça bouge, quoi. Vous disiez tout à l'heure ce terme viscéral qui laisse à entendre l'intuition populaire de la centralité du ventre dans la bonne santé. Ici, c'est audible. Quand il dit « Le ventre pense », ça fait évidemment penser au titre de votre propre livre, Francisca Joly-Gomez, L'intestin, notre deuxième cerveau. C'est une expression qui a été beaucoup utilisée, qui correspond à quoi exactement?
En fait, on savait depuis longtemps qu'il y avait ce qu'on appelle un système nerveux dans l'intestin, mais ces dernières années, d'un point de vue scientifique, on a beaucoup avancé sur la caractérisation de ces neurones, en fait, dans l'intestin. Tout à l'heure, on parlait de muscles. Bah, il faut imaginer cet organe, c'est comme pour marcher ou pour utiliser sa main. On a besoin des muscles, mais on a aussi besoin des nerfs. On a besoin de cette connexion entre les deux. Et dans l'intestin, pour que l'intestin se contracte, on a besoin de muscles, mais on a besoin des neurones. Et ces neurones, en fait, on a une centaine de millions de neurones dans l'intestin qui ressemblent beaucoup aux neurones de nos cerveaux. Alors, ils sont un peu différents, mais ils ressemblent, ils sont connectés entre eux. Et il y a même ce qu'on appelle un système nerveux autonome, c'est-à-dire qui fonctionne indépendamment même de notre cerveau.
Il n'y a pas besoin d'ordre du cerveau pour lui-même déclencher un ordre de contraction du muscle, par
exactement.
Exemple.
Et donc, néanmoins, il reste connecté. Donc les deux sont connectés et c'est là où ça devient aussi un sujet passionnant, où là on a énormément de recherches qui avancent et qui doivent encore avancer parce qu'on a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Ces neurones dans l'intestin, on comprend bien qu'ils vont faire fonctionner notre intestin, c'est-à-dire en le contractant, mais les neurones, ça envoie des signaux, ça envoie de la sérotonine par exemple, ce qu'on appelle des neurotransmetteurs qui ont une action locale mais qui peuvent aussi avoir une action à distance.
Prenons ce cas de la sérotonine qui est un cas très important et très intéressant. Peut-être sa sécrétion est déclenchée par les neurones qui sont donc dans l'intestin. Ça veut dire que d'un seul coup, c'est une hormone, on peut dire ça comme ça, un neurotransmetteur qui circule dans le sang.
Alors, qui va avoir une action très très localisée, mais qui peut aussi circuler dans le sang. Et tous ces éléments qui peuvent être sécrétés vont aussi agir en cascade. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire que oui, on peut voir qu'un élément est déclenché par un neurone ou que les bactéries de l'intestin vont elles-mêmes entraîner un travail supplémentaire au niveau des neurones. Donc vous voyez, il y a aussi le fait que tout fonctionne un peu en cascade. Donc à un moment donné, est-ce que c'est le neurone lui-même qui commence, ou est-ce que c'est les bactéries, ou est-ce que c'est notre cerveau central, on va dire, qui envoie un signal en cas de stress, par exemple.
Ça, on ne sait pas encore.
Alors, de plus en plus, on voit l'importance, en fait, du stress et de l'anxiété sur l'intestin. Alors ça, vous allez me dire, on le sent très bien quand on est stressé. Certains ont mal à l'estomac, d'autres...
Certains, pour ne pas dire tout le monde.
D'autres vont avoir le côlon qui s'accélère. Donc on sent bien que le haut travaille vers le bas, mais ça va même...
Juste par quel mécanisme, parce que c'est intéressant, on a été assez précis sur le mécanisme du bas, mais du haut qui travaille vers le bas, c'est l'angoisse, le stress, donc production...
On va avoir
Par le système nerveux du cerveau.
Voilà, qui éventuellement vont aussi produire de l'adrénaline ailleurs et qui vont agir au niveau de l'intestin. C'est-à-dire que l'adrénaline, ça ne fait pas que contracter l'intestin. Vous avez bien remarqué, quand on est stressé, on a le cœur qui bat plus vite. Donc on voit qu'on a des signaux qui peuvent partir vers le haut, mais ça va même au niveau de l'intestin sur des choses un peu nouvelles qu'on ne connaissait pas, avec une perméabilité qui est modifiée. C'est-à-dire que nos cellules au niveau de l'intestin, elles sont rattachées les unes aux autres, elles sont plus ou moins serrées pour ne pas laisser passer tout ce qui passe dans l'intestin. Et à un moment donné, si cette perméabilité n'est pas tout à fait suffisante, il y a des éléments qui peuvent passer et vont stimuler des choses au niveau de la paroi, voire le système immunitaire, et déclencher comme ça en cascade d'autres choses. Donc
ça peut être, parenthèse, le cas de l'ulcère, ça peut être le déclenchement de l'ulcère, ou ça n'a rien à voir?
Alors l'ulcère, au sens large, par exemple, qu'on appelle l'ulcère de l'estomac ou l'ulcère du duodénum, lui, il est souvent lié à une bactérie qui est présente au niveau de l'estomac, qui s'appelle l'hélicobactère pylori, qui est une bactérie qui favorise l'ulcère. Mais au niveau du stress, par exemple, on va rarement... L'ulcère de stress qu'on pourrait imaginer, c'est extrêmement rare. C'est des choses qu'on voit plutôt dans des situations très aiguës en réanimation. Mais en général, l'ulcère qu'on peut avoir, elle est souvent liée à une bactérie qu'on va rechercher d'ailleurs, au niveau de l'estomac. Donc l'anxiété peut avoir un rôle sur l'intestin, mais ce qui est nouveau, c'est que l'intestin pourrait avoir un rôle, lui, à distance, au niveau du cerveau. Et aujourd'hui, on a des recherches qui s'intéressent à justement la composition des bactéries de l'intestin, de ce microbiote, dans des situations neuropsychiatriques, on va dire, dans la dépression, dans l'anxiété.
Par exemple, il y a des tests qui sont faits donc, sur des cas de souris dites dépressives. Et qu'est-ce qu'ils montrent, ces tests-là, justement, sur la relation? Alors, c'est une relation dont on se rend bien compte qu'on ne sait pas exactement où est le début, où est la fin. C'est assez circulaire, en fait, la relation entre ce système entérique, système nerveux entérique, et le système nerveux du cerveau. Ça tourne, en fait. Ça communique et ça tourne.
Voilà. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on voit bien que c'est un système
qui dialogue.
Qu'on appelle bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue en permanence. Et qu'à un moment donné, on ne sait pas où commence
le déclenchement de l'info.
Voilà, qu'est-ce qui va déclencher l'ensemble. Mais ce qui est important, c'est de se dire, en fait, maintenant, on sait que cette boucle, elle existe, et donc on va la considérer en tant que telle. Et on ne peut pas faire sans. Et on dit très souvent, en fait, il nous manquait un maillon, par exemple. Ce maillon, ça peut être justement une meilleure connaissance des bactéries de l'intestin, mais aussi de cette relation avec le neurone de l'intestin. Une des maladies où vraiment il y a eu des modifications des connaissances, c'est par exemple la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est une maladie fréquente, où on voit les personnes avoir du mal à se mobiliser. On a du mal à marcher, à avoir des petits mouvements anormaux avec un tremblement. Donc c'est une maladie qui est actuellement uniquement suivie par des neurologues, avec vraiment une anomalie des neurones au niveau du cerveau. Et depuis quelques années, on s'est intéressé à qu'est-ce qui se passe au niveau des neurones de l'intestin. Et donc c'est une équipe à Nantes qui est vraiment très en avance dans ce domaine, qui a montré que lorsqu'on étudie les neurones de l'intestin en faisant une biopsie en fait de la paroi, on voit les mêmes anomalies en fait que l'on pourrait voir dans la maladie de Parkinson. Sauf que c'est beaucoup plus facile de faire une biopsie de l'intestin qu'une biopsie du cerveau. Donc tout d'un coup là, ça ouvre quelque chose de possible rapidement dans les années à venir. Peut-être que la maladie de Parkinson, on pourra faire des diagnostics précoces en faisant une biopsie de l'intestin, en faisant une coloscopie, par exemple.
Ce qui fait penser, parce que ça fait un effet de gémellité, comme ça, ou en tout cas un effet miroir, ce qui fait penser à quelque chose de plus ancien dans la composition de notre corps, à la matière embryonnaire qui va donner le système nerveux du cerveau et qui va donner le système nerveux de l'estomac, et à la base, une matière embryonnaire unique.
Exactement, en fait. C'est pour ça qu'on comprend bien qu'il puisse y avoir un lien entre ces maladies-là, puisque au départ, on parle du même système embryonnaire. Et c'est vraiment au tout début de l'embryogenèse, lorsque cet embryon est en train de se former, on va avoir les neurones qui vont migrer et qui vont se séparer. Certains vont au niveau du cerveau et d'autres vont arriver au niveau du tube digestif, donc tout au long de l'intestin. Donc il y a vraiment au départ une même source embryonnaire, tout à fait.
Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à une idée justement d'effet miroir, c'est-à-dire que le système nerveux du cerveau a une sorte de composition, alors quoi, génétique, qui serait identique au système nerveux qu'on connaît dans le système digestif?
Alors, quand on regarde ces neurones et les connexions qu'il y a entre les neurones, c'est vrai qu'il y a certains fonctionnements qui sont relativement similaires, mais ils sont pas tout à fait pareils. Par exemple, dans la connexion des neurones au niveau du cerveau, enfin, il y a ce qu'on appelle pour de la myéline, c'est-à-dire que ils vont communiquer entre eux par un système. C'est comme si on envoyait en fait de l'électricité. Et en fait, ce système de communication, de conduction est un peu différent quand même au niveau de l'intestin. Mais parce que au niveau de l'intestin, l'intestin est extrêmement long et probablement qu'on n'a pas besoin d'être aussi rapide dans la transmission d'informations. Donc on part du même système embryonnaire, mais il y a quand même des différences.
Mais parce que les fonctions sont différentes, exactement. Donc forcément il y a des modifications.
Au final, on a des fonctions qui sont quand même relativement différentes.
Alors évidemment, on n'a pas manqué de relever le nom de ce nerf qui fait d'une certaine manière le dialogue entre le système nerveux du cerveau et le système nerveux entérique, puisqu'on l'appelle le nerf vague, pour une émission qui s'appelle Les Nouvelles Vagues, forcément ça nous a fait sourire. C'est qui ce nerf vague ?
Alors le nerf vague, c'est un nerf justement qui va aller du cerveau jusqu'à l'intestin, mais qui a des voies, ce qu'on appelle des voies afférentes, et qui va permettre cette communication et ce lien direct entre ces organes.
C'est une autoroute ? Il ne dessert que
le
cerveau ?
Non, il ne dessert pas que le cerveau, mais c'est aussi là des choses qui sont complètement... On savait que ça existait, on sait que ça existe, mais ça devient des axes aussi de recherche et de traitement intéressants parce que on voit bien que dans les douleurs qu'on peut avoir dans certaines maladies intestinales, cette hypersensibilité viscérale, si on pouvait moduler éventuellement cette communication entre le bas et le haut, bah peut-être que la douleur serait diminuée. Donc on a comme ça des équipes qui s'intéressent beaucoup à... Même, est-ce qu'on ne peut pas stimuler, faire de l'électrostimulation à ce nerf vague pour voir s'il ne peut pas y avoir un impact direct sur l'intestin. Donc c'est en tout cas un axe de recherche actuellement qui est remis un petit peu au premier plan, mais c'est vrai que c'est des organes qui sont finalement très difficiles d'accès et d'exploration.
Est-ce que vous êtes sensible dans cet axe de recherche à des pratiques, par exemple comme l'ostéopathie ou comme des pratiques du toucher qui vont travailler sur ces systèmes nerveux ?
Alors c'est vrai que quand j'ai fait mes études de médecine, c'est des choses dont on parlait pas du tout
à l'université.
Je trouve que finalement, tout à l'heure on parlait de la médecine occidentale, on a une telle masse d'informations et de données scientifiques à ingurgiter. Alors c'est pas parce que je suis gastro-entérologue que j'utilise ce mot-là, mais c'est vrai que tout ce qui est, on va dire, un peu à côté, parallèle, c'est des choses qu'on n'évoque pas. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est des axes qu'on met moins de côté. Et par exemple, l'hypnose, dont les mécanismes sont quand même complexes, de comprendre comment l'hypnose fonctionne, en gastro-entérologie, c'est de plus en plus utilisé justement pour essayer de... Je dis, c'est comme s'il fallait découpler, en fait... Le cerveau du haut, le cerveau du bas,
travailler à une belle circulation. On peut aussi, sans avoir envie d'obstruer cette circulation, travailler à ce que ce qui circule soit plus fluide,
plus harmonieux.
Plus harmonieux.
Oui.
C'est Trevor Pinnock qui interprète la variation numéro 4 des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach au clavecin. Ça faisait partie de votre souhait musical, Francisca Jolie-Gomez. Pourquoi ?
Parce qu'il y a une certaine humanité dans cette air. Et puis, il y a quelque chose qui prend aux tripes, en fait. Voilà. Donc, pour moi, c'est... Il y a quelque chose de très beau, très viscéral, très humain.
Tout à l'heure, vous disiez qu'en consultation en gastro-entérologie, c'est pas forcément simple pour le patient, y compris, j'imagine, pour le médecin, de pouvoir mettre des mots, d'écouter, d'avancer ensemble vers un diagnostic précis et qui pourrait aboutir au meilleur traitement. Est-ce que vous entendez justement dans toutes ces expressions, puisque vous dites ça prend aux tripes, c'est viscéral, est-ce que votre rôle aussi en tant que gastro-entérologue, c'est d'avoir une écoute qui va au-delà de la simple écoute, je dirais, anatomique et d'entendre là-dedans des possibles somatisations, des possibles angoisses? Comment est-ce que vous travaillez votre écoute?
C'est quelque chose qui va s'apprendre au fur et à mesure, parce que c'est vrai que on va d'abord voir comment font les plus anciens, et puis petit à petit, quand on se retrouve la première fois en consultation, c'est vrai que c'est pas simple, parce que les mots qu'on apprend ne sont pas les mots que utilisent les personnes pour décrire leurs symptômes, et je pense que c'est vrai pour toutes les spécialités. Donc on va essayer de traduire, hein. Et c'est pas facile de traduire, d'utiliser tout d'un coup les mots de l'autre dans notre grammaire médicale. Donc ça demande du temps. Et en fait, plus les symptômes sont difficiles à décrire parce qu'il y a une certaine pudeur, plus ça prend du temps. Mais dans ce cas, on va aider aussi. On va apporter des mots qui sont parfois impossibles à, comme ça, de premier abord.
C'est un temps dont vous disposez à l'hôpital pour les consultations ?
Il faut le prendre. On se bat pour, en fait. Et c'est important.
Tout à l'heure, on a dit à quel point les ouvertures de la recherche étaient essentielles, stimulantes, encourageantes. Elles se situent où, ou ils se situent où, vos plus grands espoirs en ce domaine, concernant le ventre et ce qu'il abrite?
Il y a énormément de choses. Aujourd'hui, ça serait de mieux comprendre ce fameux rôle du microbiote et des bactéries intestinales dans des maladies évidemment intestinales, mais aussi des maladies non intestinales, parce qu'on a beaucoup de questionnements des patients qui souffrent de maladies neurologiques ou psychiatriques et qui maintenant ont entendu ce rôle et sont en demande en disant « mais voilà, moi j'ai une maladie de Parkinson, est-ce qu'il ne faut pas me changer le microbiote ?» Et aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question. Donc je suis obligée de répondre. Dans l'état actuel de la science, je ne peux pas vous proposer ce type de traitement. Donc on a ouvert une porte, on a ouvert une fenêtre vers l'intestin. Maintenant, on a besoin de réponses assez vite, assez rapides pour les patients.
De l'argent pour la recherche,
par exemple.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues, par Marie Richaud.
14h52 sur France Culture, nous avons entamé voilà un an et demi une grande collection de récits qui répond à cette question: qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui fait office de tournant dans vos parcours? Et cette semaine, c'est la réalisatrice Laetitia Merli qui se prête à l'exercice. Il y a plus de 20 ans, 25 ans même, elle découvre Les Maîtres Fous de Jean Rouch et elle n'en sort pas indemne.
Au début des années 90, je suivais assidûment les séminaires du samedi matin de Jean Rouch et de toute une équipe de collègues, d'anthropologues, du Musée de l'Homme, de la Cinémathèque, de réalisateurs, etc. Donc les samedis matins, je me rendais dans ce haut lieu de culture. Et donc Jean Rouch faisait son show. Voilà, il recevait des réalisateurs, il organisait sa programmation, qui pouvait toujours paraître un peu farfelue. On se demandait des fois pourquoi tel film étaient présentés ensemble. Et puis quand on les voyait, le sens émergeait de façon complètement évidente. Parce que bien sûr, il avait réfléchi à tout ça et il était un grand magicien comme ça de la programmation. Donc j'allais le samedi matin à ces séminaires-là. Et c'est comme ça que je découvrais le Musée de l'Homme, Jean Rouch, que je voyais les Maîtres Fous et plein d'autres films de Rouch. Donc c'est vrai que ce film m'avait marqué. C'est un film de 1954 qui présente un culte de possession des Hawka, au cours duquel les initiés, des immigrés nigériens à Accra, incarnent les symboles du colonialisme. Donc on y voit des scènes assez violentes, et des scènes de possession, etc. Donc pour mes débuts d'anthropologue, c'était quand même un choc. On ne pouvait pas sortir complètement indemne de ce film-là. Et voilà, je m'étais dit aussi, bon, bah, c'est possible. Voilà, c'est possible de faire des films comme ça. C'est possible d'être au plus près des gens. Il y avait cette idée vraiment d'une anthropologie partagée. D'être vraiment en proximité avec les gens et d'être là tout simplement avec une caméra très très présente et très participante. Voilà, donc je découvrais ce comité du film ethnographique, ce bilan du film ethnographique. Et mon premier film en 2000, Call for Grace, a été sélectionné au bilan du film ethnographique. Donc pour moi c'était un grand honneur et vraiment je rentrais comme ça dans cette programmation de Rouge, présentée par Rouge, etc. Et ça ne bouclait pas encore la boucle, parce que c'était le début d'une nouvelle boucle. Parce qu'en 2005, j'ai organisé les Regards comparés mongols, donc au sein du comité du film ethnographique. Et en 2008 et 2009, je suis devenue directrice artistique du Festival international Jean Rouch, puisque au décès de Jean Rouch, nous avions rebaptisé le bilan du film ethnographique en Festival international Jean Rouch. Well, old folks book and the children too. Can't nobody book like me and you. She want to boogie, go boogie all the time. Well, your mama got mad about some shit. Hey, look here, Dad. Don't mean a word. She want to boogie, go boogie
Boogie Children par Boy Blue pour terminer cette émission. C'est une musique qui avait été enregistrée par Alan Lomax, ethnomusicologue à qui on consacrait il n'y a pas si longtemps sur cette chaîne un culture musique. Vous pouvez réécouter tout ça sur franceculture.fr. Et tant qu'on est dans l'annonce ou la promotion des propres programmes de notre chaîne, je vous conseille d'écouter l'émission d'Alain Kruger ce dimanche prochain. L'émission On ne parle pas la bouche pleine sera une sorte de continuité de notre émission à nous. Francisca Joly-Gomez, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de ce qu'il y a dans le ventre, l'intestin, notre deuxième cerveau. C'est publié en poche aux éditions Marabout. Les nouvelles vagues sont terminées pour aujourd'hui. On peut les réécouter sur franceculture.fr. On peut aussi s'envoyer des messages via le site internet ou se parler via Twitter et Facebook. Merci à Romain Debecq de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Somanina, avec aux manettes aujourd'hui Edouard Rubinstein et au droit d'auteur Julie Guéroux. Et on l'a dit tout à l'heure, cette journée internationale du 8 mars est dédiée aux droits des femmes. Toute la journée, Christiane Taubira propose à France Culture son dictionnaire critique du sexisme. On l'écoute.
Des mots contre les femmes, y compris de la part d'esprits réputés perspicaces. Ainsi de Pierre-Joseph Proudhon, philosophe, se réclamant du socialisme libertaire, qui parvient à l'exploit de croire et de désirer à la fois l'ordre et l'anarchie. On imagine mal ou peu qu'il puisse proférer des inepties sur les femmes. Et pourtant, celui qui affirme que la propriété c'est le vol, qui, soucieux de justice et de promotion sociale, conçoit déjà le crédit à taux zéro, ainsi que le système mutualiste, pense l'alliance des classes ouvrières et paysannes. Celui-là même prononce cette énormité. Une femme qui exerce son intelligence devient laide, folle et guenon. Ou encore, la femme n'est pas seulement autre que l'homme, elle est autre parce qu'elle est moindre, là où la virilité manque, le sujet est incomplet. Preuve que personne n'est à l'abri de la stupidité. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir eu sous les yeux des femmes libres, brillantes, spirituelle, intrépide, résolue, plus admirable que bien des hommes. Car il a quand même pu lire ou entendre des femmes de son époque, très différentes mais également remarquables, telles que Flora Tristan et George Sand. Peut-on se consoler quand même, avec la même école de pensée, en pensant à Charles Fourier, clairvoyant, qui soutient que partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même. C'est quand même beaucoup mieux. Et si je ne relate pas ici des inepties de même calibre que celles de Proudhon, énoncées par nos contemporains, c'est juste parce qu'elles sont encore plus bêtes et plus vulgaires.
Des mots contre les femmes, c'est donc un extrait du dictionnaire critique du sexisme proposé par Christiane Taubira en cette journée internationale des droits des femmes. L'ensemble de ces chroniques est à retrouver évidemment sur franceculture.fr et à suivre avec le hashtag 8 mars sur les réseaux sociaux.